Radio Anthropocène, à l'écoute du changement global.
Et bienvenue encore une fois en direct de Pilo pour la 6e édition du festival à l'école de l'Anthropocène. Radio Anthropocène vous reçoit, nous sommes ravis, et pour cette dernière émission de la journée, en ce premier jour de printemps, quoi de mieux que de réfléchir à l'amour ? Une demi-heure pour aborder la question de l'amour, vous me direz, quelle originalité ! C'est un sujet vieux comme le monde, maintes et maintes fois abordé, mais c'est sous un angle singulier que nous souhaitons aujourd'hui discuter de ce sujet. L'amour rend aveugle, dit-on. On aurait pu parler d'amour invisibilisé, mais ce soir, non, nous n'allons pas recourir à la vue, mais bien à l'ouïe pour y réfléchir. C'est une histoire d'amour passée sous silence dont nous allons traiter. Et pour cela, nous avons le plaisir de recevoir Christelle Murula pour discuter avec elle de son ouvrage « Amour silencieux ». Christelle Murula, bonsoir et merci d'être avec nous.
Bonsoir et merci pour l'invitation.
Vous êtes journaliste et autrice, vous écrivez principalement sur les évolutions sociétales qui ont trait à la culture, vous penchez sur les féminismes et les représentations que nous en faisons. Vous collaborez régulièrement avec des magazines culturels ou féminins, tels que M, le magazine du Monde, Mademoiselle, Marie-Claire ou encore Mediapart, c'est bien ça ?
Oui, c'est ça.
Et vous êtes surtout l'autrice, donc la raison de votre venue aujourd'hui, de « Amour silencieux, repenser la révolution romantique depuis les marges » aux éditions Daron, qui a été publié en 2002.
En
2022, pardon, j'ai oublié le 20. Et c'est plus particulièrement pour cette raison que donc nous vous recevons ce soir. Première question, peut-être un petit peu large, c'est quoi les amours silencieux et pourquoi l'avoir écrit, surtout au pluriel ? On s'est demandé ça tout à l'heure en préparant l'émission.
Là, c'est une très très vaste question en effet. Alors, pourquoi les amours silencieux ? Parce que, en fait, on est dans une ébauche de ce qu'on appelle révolution romantique. En fait, beaucoup de figures féministes et des questions féministes se tournent autour de ce que l'on fait de la représentation du couple dans la vie des femmes, notamment quelle place prend le couple dans la vie des femmes, etc. Et cette révolution romantique, elle existe justement pour qu'on puisse se questionner là-dessus, sur notre rapport à l'hétérosexualité, notre rapport aux hommes et notre rapport au couple et au fait qu'on devrait ou non être en couple. Et le silence, en fait, c'était pour montrer que justement dans toute cette démarche pour déconstruire entre guillemets le couple et les relations amoureuses, il y a pas mal de femmes qui s'en sentent exclues, qui ne se sentent pas forcément représentées dans tous les écrits, dans tous les podcasts, enfin dans toutes les productions qui ont attrait à la révolution romantique, donc que ce soit les femmes racisées, les femmes handicapées, les femmes précaires, issues des quartiers populaires, etc. Donc, silencieux, c'est pour ces femmes-là, mais c'est aussi pour évoquer d'autres types d'amour. Qui sont l'amour familial, l'amitié, etc. Parce que ce que j'essaie de dire aussi dans ce livre, c'est que lorsque l'on parle d'amour, on se représente forcément l'amour romantique. Et jamais, ou alors seulement après l'amitié, la famille choisie, etc. Donc c'était vraiment un moyen pour moi de regrouper tout ça et de pouvoir analyser toutes ces formes d'amour et l'accès à l'amour dont certaines femmes sont quasi exclues.
Et justement, à ce titre, qu'est-ce que ça dit pour vous, ce focus sur l'amour romantique, cette conception quasi univoque de quand on parle d'amour, on parle d'amour romantique, conjugal. Qu'est-ce que ça dit pour vous de notre société ?
Ça me dit que j'ai l'impression que malgré tous les changements qu'on a pu avoir, voilà, les révolutions féministes dans les années 70, enfin voilà, tout ça, le couple reste au centre. Le couple et la famille, en tout cas le modèle de famille nucléaire reste au centre. Parce que vraiment, quand on se dit l'amour, on se dit ah bah c'est deux personnes qui s'aiment et qui font d'une famille et qui ensuite emménagent ensemble et se marient, etc., etc. C'est vraiment ça la première représentation de l'amour que l'on se fait dans nos têtes. C'est pas forcément deux amis qui s'aiment follement, c'est pas forcément les liens de famille entre deux sœurs. Enfin, c'est beaucoup plus large que ça, mais le souci c'est qu'on reste quand même malgré tout dans une société qui prône en fait l'amour romantique et cette forme d'amour-là est la forme la plus privilégiée, en fait, qui est.
Oui, il y a une forme de revalorisation de toutes les formes d'amour, donc c'est aussi très féministe comme pensée, puisque ça permet, au lieu de mettre entre guillemets tous nos œufs dans le même panier, aussi en tant que femme, d'équilibrer un petit peu les endroits où on s'investit émotionnellement et en termes de relations. Je voulais revenir, moi, sur la notion de révolution romantique. C'est vrai que c'est très à la mode, entre guillemets, notamment depuis le podcast de Victoire Tuaillon, Le cœur sur la table, cette histoire de révolution romantique. Elle remet en cause l'ordre établi, notamment dans l'hétérosexualité, le couple hétérosexuel, et il questionne toutes ces questions de genre. Est-ce que vous en êtes senti, a priori, dans le livre, vous le remettez un petit peu en question, est-ce que c'est vraiment pour rééquilibrer avec les autres formes d'amour, ou c'est aussi tout simplement pour dire qu'il n'y a pas vraiment de révolution romantique, elle n'existe pas réellement ?
Je pense que c'est un peu des deux, pour le coup. Parce que déjà, le terme de révolution romantique, en fait, il a été pour la première fois, en tout cas en France, écrit par la journaliste et autrice Costanza Spina, qui a écrit un livre dont le nom m'échappe, mais qui est génial. Et en fait, elle avait écrit une tribune qui disait, en gros, la révolution romantique, c'est les femmes queer et les femmes racisées qui vont l'initier. Laissez ça à ces femmes-là. Et puis ensuite, le terme, il a été popularisé par le podcast de Victoire Tuaillon. Et puis, c'est un peu massifié, en fait. Et le souci, c'est que... Enfin, c'est à la fois pas un souci et un souci, mais beaucoup de personnes se sont appropriées ce terme-là pour dire que, justement, elles allaient envoyer valser leur couple hétérosexuel, monogame, etc. Donc, pour le mieux, puisque si c'est ce qui leur convient, en fait, tant mieux. Mais d'un autre côté, il faut se poser la question de qui peut le faire, qui a accès justement à cette révolution romantique-là. Est-ce que la révolution romantique, comme la manière la plus mainstream l'entend, est accessible à toutes les femmes, ou est-ce que c'est réservé à des femmes qui sont assez privilégiées, qui vivent dans un monde assez citadin, qui sont plutôt bourgeoises, blanches, etc. Enfin, c'est un peu comme toutes les notions politiques qui émergent, en fait. Ça arrive, et ensuite c'est popularisé, et ça devient mainstream, et ça devient accessible à beaucoup, beaucoup de femmes, ce qui est génial. Et d'un autre côté, ça s'en devient presque vidé de sa substance politique initiale, et ça exclut, en fait, des femmes qui, justement, ne sont pas du tout privilégiées dans la société et qui, pour le coup, auraient tout intérêt à pouvoir s'approprier ces termes-là et s'approprier ces révolutions politiques-là.
Ouais, c'est important ce que vous dites, notamment sur la notion de privilège. On le sait, notre société est faite comme ça, avec une politique aussi qui suit là-dessus, sur être en couple hétérosexuel, c'est moins cher, en fait, la vie, ça déprécarise. Et en fait, sortir du couple, ça précarise les femmes. Il y a de nombreuses études qui le montrent. Donc c'est vrai que est-ce que dans votre livre, vous avez envie de montrer une forme de féminisme qui n'oublie pas aussi les contextes de classe sociale? Est-ce que c'est aussi tout le propos? Parce que sortir du tout couple hétérosexuel, en effet, c'est pour les privilégiés qui ont suffisamment de ressources pour être indépendantes financièrement.
Exactement, parce que certes, le couple hétérosexuel et vivre avec une personne, ça peut ne pas convenir justement à toutes les femmes, mais parfois peut-être que que pour certaines femmes, c'est vraiment justement leur seul moyen de pouvoir s'extraire déjà de leur foyer familial, de leur cellule familiale initiale, de pouvoir justement aussi avoir accès à la propriété, parce que c'est beaucoup plus facile d'acheter un logement à deux que quand on est toute seule. Le couple, c'est aussi ça, c'est aussi une affaire de partenariat, c'est aussi quelque chose qui facilite en quelque sorte la vie, en tout cas en France et même dans le monde occidental de manière assez globale. Parce que déjà, quand on est en couple comme une femme, on a beau se dire pas mal de choses, une femme sera toujours considérée comme plus respectable si elle est en couple avec un homme. Et après ça, pour avoir accès à certaines choses, économiquement notamment, c'est beaucoup plus simple aussi. Ça permet de les sortir de la précarité, etc. Et en fait, Donc c'est génial de vouloir pousser toutes les femmes à s'émanciper des relations amoureuses, à s'émanciper des hommes, à s'émanciper de tout, à pouvoir se lancer dans des formes d'amour qui sont considérées comme plus diverses, mais des formes d'amour qui sont moins classiques. Mais après, voilà, qui peut le faire? Je ne sais pas si, par exemple, je me souviens sur les réseaux sociaux à l'époque, dès qu'une femme se plaignait de son mari ou de son compagnon, on lui répondait « quitte-le ». Il faut que tu le quittes, tu seras mieux toute seule, etc. Alors, peut-être, mais qu'est-ce que ça implique de quitter son compagnon ? Ça implique de devoir chercher un logement si on vit ensemble, si on a des enfants, ça implique de devoir mettre en place certaines choses, la pension alimentaire qui n'est pas toujours payée. On vit en quartier populaire, ça implique aussi de retrouver un logement alors que c'est une année pour se trouver des logements à peu près sains là-bas. Enfin, ça implique beaucoup, beaucoup de choses en fait qui ne sont pas forcément prises en compte dans les discours qui prônent une certaine forme d'empouvoirment en fait des femmes en les poussant justement à s'émanciper de leurs relations.
Est-ce que le concept d'intersectionnalité est aussi au cœur de votre ouvrage ? D'ailleurs, quelles sont un peu vos influences ? On parle beaucoup, les féministes blanches, en tout cas en France, ont beaucoup de place sur l'espace public. Mmh. Est-ce qu'il y a d'autres références que vous pourriez apporter ? Quelles sont vos influences à vous, et notamment pour l'écriture de votre livre ?
J'en ai eu beaucoup et j'ai eu très peu d'influences de la part de féministes blanches, pour être honnête. Voire même pas du tout. Mais par exemple, en France, il y avait La Parole aux Négresses de Hawa Thiam qui a cofondé la coordination des femmes noires. Et après, le truc, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de références qui sont aux États-Unis. Donc Bell Hooks, qui a écrit À propos d'amour, qui a été traduit il n'y a pas si longtemps que ça, mais qui se vend comme des pipins. Il y a aussi Audre Lorde avec Sister Outsider. Enfin, c'est vraiment toute cette vague de féministes des années 70, 80, 90 aux États-Unis, des féministes noires, mais qui sont mortes. et ça en dit beaucoup aussi du fait qu'on ait ces références-là en France, alors qu'en France, on peine justement à pouvoir citer des références d'afro-féministes noires françaises qui ont écrit sur ces questions-là. Après, cette question de l'amour, elle est quand même assez spécifique, mais en France, il y a quand même certaines voix qui ont émergé depuis le début des années 2010. Donc, il y a Amandine Gay, la réalisatrice d'Ouvrir la Voix, il y a Fania Noël, il y a Kiemis, la poétesse. Il y a beaucoup, beaucoup de voix qui commencent à s'ouvrir et justement à prendre aussi leur place sur ces questions-là. Et pour moi, la grille d'analyse intersectionnelle, elle était primordiale, et de toute manière, je ne vois pas comment est-ce qu'on peut analyser un phénomène de société ou un fait de société sans prendre en compte cette grille d'analyse-là, puisque c'est juste mettre sur le côté une immense partie des femmes, en fait. Et c'est un aveu aussi, un aveu qui est que pour les personnes qui ne prennent pas en compte cette grille d'analyse-là, une femme, c'est une femme blanche, mince, valide et hétéro. Et voilà. Et ailleurs, et derrière, il y a les autres. Et les autres, on n'en parle pas forcément parce qu'elles ne sont pas non plus forcément considérées comme des femmes, ou alors comme une femme, comme le modèle d'universalité à la française se le représente.
Je rebondis sur la notion d'intersectionnalité. Vous parliez d'Amandine Gay qui a fait la préface du livre de Bell Hooks. Moi, j'ai personnellement bien aimé sa façon de définir l'intersectionnalité, qui est le refus de compartimenter les luttes et qui affirme les femmes noires qui n'appartiennent pas tant au monde des noirs qu'au monde des femmes et qui sont vraiment à l'intersection. C'est intéressant de voir, d'avoir ça en tête aussi quand on se considère comme féministe ou autre, pour bien prendre en compte que sa posture n'est pas celle de tout le monde. Mmh. Et pour éviter justement l'exclusion d'une très, très grande partie de la population. Comment dans votre livre ça s'exprime, ça, cette notion d'intersectionnalité ? Est-ce que c'est dans des histoires ? Est-ce que c'est dans des...
Je pense que c'est dans des histoires, effectivement, dans des témoignages, dans ce que j'ai pu observer aussi dans des œuvres, que ce soit dans des séries, dans des films, ce que j'ai pu observer aussi dans les réseaux sociaux, parce que je voulais quand même que ce soit assez accessible pour les femmes qui ont à peu près mon âge, donc des femmes qui sont vingtenaires ou alors des femmes trentenaires. Je pense que, en fait, étant donné que je suis une femme noire, j'aurais eu du mal à ne pas avoir cette perspective-là, puisque moi, je suis entrée dans le féminisme par la perspective intersectionnelle, en fait. Et j'ai pas connu, j'ai pas forcément connu d'autres formes de féminisme, en fait. J'étais pas immensément sensibilisée aux questions féministes de manière très, très, très théorique. Avant, et en fait c'est par l'intersectionnalité que ça m'est arrivé quand j'avais 17-18 ans quoi. Donc je suis désolée, je me perds un peu dans mais oui, enfin en tout cas dans le livre c'est pour moi c'est primordial, et c'est pour ça que d'ailleurs j'ai certes une grosse partie sur les femmes noires parce que c'est ce que je connais, mais j'ai essayé aussi de parler par exemple des femmes handicapées, des femmes qui sont grosses, parce qu'on peut être une femme noire grosse handicapée par exemple. J'ai essayé de ne pas me limiter non plus qu'aux femmes hétéros, voilà, parler aussi des femmes qui vivent dans les quartiers populaires, etc. Enfin, pour moi ça... Je vois pas comment est-ce qu'on peut écrire un ouvrage féministe sur les femmes sans essayer au maximum d'inclure tout type de profil de femmes, tout type de profils sociaux en tout cas, parce que au bout d'un moment, qui va parler de ces femmes-là? Et ça, c'est ce que je dis dans ma conclusion, c'est que moi j'ai pondu ce livre, mais j'espère que d'autres le feront, j'espère que des femmes handicapées s'empareront de la question. Elisa Rojas, qui est militante, l'a déjà fait avec son roman Mister T, mais j'espère aussi que des femmes trans s'empareront de la question, des femmes transracisées, enfin j'espère vraiment que tout type de profils sociaux pourra s'emparer de la question et pourra avoir un jour aussi le privilège d'être publié, en fait, pour écrire ce livre, pour écrire un livre pareil, ou pour je ne sais pas, avoir un accès à un studio de podcast qui pourrait produire quelque chose, une production, n'importe quoi. Parce que, et au-dessus de ça aussi, c'est l'accès à ces canaux de diffusion. Et c'est vrai que là aussi, c'est assez compliqué. De pouvoir être publié, c'est un privilège. De pouvoir sortir un podcast pour lequel on a été rémunéré, c'est un privilège. Et donc, j'espère vraiment que tout type de profil pourra y avoir accès un jour pour qu'elles puissent elles aussi mettre leur pierre à l'édifice.
Et justement, moi je voulais vous poser la question de l'adresse, à qui vous l'adressez finalement cet ouvrage, et comment s'en saisir aussi en tant que, en l'occurrence, homme blanc cis hétéro, à qui vous adressez cet ouvrage, et comment, quand on n'est pas une femme noire, on s'en saisit?
Alors, c'est une très bonne question. En soi, dans les retours que j'ai eus, c'était des retours assez variés pour le coup. C'est vrai que j'ai eu peu de retours de la part d'hommes, à part de la part de mes amis. Mais à la base, à qui est-ce que je m'adressais? Je sais pas. J'arrive toujours pas à savoir à qui est-ce que je m'adressais. Je sais que je voulais quand même que les femmes noires aient un livre refuge, même si je suis pas sûre que beaucoup d'entre elles aient appris quelque chose en lisant ce qu'il y a là-dedans, mais je voulais qu'elles aient au moins quelque chose où elles pouvaient voir que leur expérience est couchée quelque part, et que c'est vraiment réel, et que ça existe vraiment, et qu'il y a des statistiques et des études scientifiques pour le prouver. Je pense aussi que, par exemple, pour les femmes blanches, ou en tout cas les femmes plus privilégiées, je voulais aussi qu'elles sachent qu'elles peuvent avoir des privilèges sur d'autres femmes sur cette question-là, et que on n'est pas toutes logées à la même enseigne, et qu'on n'est pas toutes égales, et on en revient à l'intersectionnalité d'ailleurs. C'était vraiment pouvoir leur montrer qu'il se passait autre chose pour d'autres femmes, des choses qui pouvaient être considérées comme un peu plus dures à vivre. Et en tout cas pour les hommes, bonne question, j'avoue que je n'ai pas intégré les hommes dans ma réflexion. Donc, c'est vrai que ce serait marrant de savoir ce que des hommes qui ne sont pas mes amis en ont pensé, en tout cas.
Non, parce qu'il y a, le livre de Bell Hooks, La volonté de changer, qui, qui est une de mes lectures rares et modestes sur ce sujet, je plaide coupable, mais qui est une adresse directe aussi faite aux hommes, et qui est potentiellement aussi dans, le moment auquel, dans lequel on vit, et pour toutes ces questions féministes auxquelles vous, mesdames, êtes confrontées en premier lieu, l'adresse finalement aux hommes est un enjeu essentiel de et de poser cette question de comment on nous intègre. Je ne dis pas du tout que j'ai la solution, mais je vous laisse la question en tout cas.
C'est une vraie question, et aussi avec toute la prolifération de ces œuvres autour de l'amour, moi ma grande question c'est qui les lit, qui les consomme, et je pense que là on arrive à un point de problématique. Parce que sans avoir fait d'études ou quoi sur la question, je pense sincèrement que ce soit Réinventer l'amour de Mona Chollet ou Le cœur sur la table ou même mon livre, l'écrasante majorité des personnes qui ont consommé ces œuvres sont des femmes. Et du coup, comment est-ce qu'on fait pour rattraper les hommes dedans ? Je sais pas. Ou alors, des femmes ont conseillé aux hommes de leur entourage de lire ça. Mais oui, comment on fait, en fait ? Comment on fait pour les attirer, pour faire en sorte qu'ils puissent eux aussi lire ? Parce que d'un côté, on se dit qu'on n'a pas à faire toute l'éducation des hommes, etc., qu'aujourd'hui Google existe, qu'il y a beaucoup, beaucoup de références. Et d'un autre, on continue à produire, mais on continue à produire pour qui ? Potentiellement pour prêcher des convaincus, des personnes qui sont déjà convaincues, ou alors pour des personnes qui sont un petit peu sensibilisées, mais qui veulent en savoir plus. Et à côté de ça, est-ce que les hommes vont faire la démarche d'aller en librairie pour lire ces livres ou d'écouter ces podcasts ? Je ne sais pas. Et comment est-ce qu'on fait pour faire en sorte qu'ils puissent eux aussi s'y sensibiliser ? Ça, pour moi, c'est la très très grande question, à part communiquer à fond. Mais au bout d'un moment, c'est un peu fatigant.
Bah, peut-être qu'il y a une forme de réponse dans votre livre avec la question des récits, le fait d'exposer des histoires de femmes qui permettent peut-être de décloisonner un peu les imaginaires et de au moins rendre visible une parole qui est invisibilisée. Et peut-être que la forme du récit aussi, c'est une forme intéressante qui est moins académique, qui est moins dans l'éducation pure et qui permet aussi de s'évader à travers d'autres histoires et se rendre compte qu'il y a d'autres récits possibles et d'autres vies qui existent. Et d'autres réalités par la personnification, quoi, en se mettant à la place de l'autre via votre livre, peut-être.
Oui, j'espère.
J'espère. C'est pas vraiment une question. Désolée. Très bien.
On va en rester sur cette proposition cette proposition joyeuse de lire des récits et d'infléchir ces imaginaires qui sont aujourd'hui peuplés et dépeuplés. Peut-être une question du public. Est-ce que Damien Rompierre peut poser une question ?
Moi, j'ai une question. Où est-ce qu'on peut trouver votre livre ? Où est-ce qu'on peut le trouver ? À Lyon.
À Lyon, alors. Dans toutes les bonnes librairies.
D'accord. La réponse.
Non, je sais qu'à la librairie La Griffe.
La Griffe, ouais. Oui, dans le 7e.
Oui, La Griffe, il y est, c'est sûr. Une librairie à Soins aussi, il y est.
Mad, oui. Ça te dit ? Non.
Je sais pas.
Une librairie à soi qui est donc dans le premier arrondissement.
Oui, là je vous cite les librairies vraiment de tête. Mais comme on est en fin de tirage, il y en a peut-être plus beaucoup, beaucoup. Après, ça se trouve aussi à la FNAC, voilà.
Donc comment se faire pour se le procurer le plus simple possible ? Il y a un site internet, peut-être un endroit ?
Oui, les sites des librairies ou alors...
On peut le commander. FNAC,
ou même sur le site de la maison d'édition, des éditions d'Arn.
Un dernier mot peut-être sur la soirée de ce soir à laquelle vous participez, Christelle Merula. La soirée La Foudre dans tous ses états. Est-ce que vous pouvez nous teaser brièvement votre performance ?
Alors, ce ne sera pas tant une performance, ce sera plus, le récit de l'histoire de ce livre, et ce sera ponctué de quelques lectures aussi. Puisque 7 minutes, en soi, ça passe très très vite, donc j'ai dû réduire.
Eh bien, Christelle Merula, un grand merci d'être venue sur les ondes de Radio Anthropocène. On vous retrouve ce soir en direct à 20h au Palais de la Mutualité. Pour la soirée La Foudre dans tous ses états, et nous nous retrouvons demain à 14h30 pour 4h30 d'antenne sur Radio Anthropocène. Merci beaucoup.
Merci.
Radio Anthropocène, à l'écoute du changement global.